Il y a 6 profs qui sont partis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا حبيب الله سيدنا خير خلق الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans les cours de أصول الفقه, on a commencé à parler sur les premiers principes dont le savant s'inspire. On a dit, la première chose dont on tire le commandement, c'est le Coran. Et la deuxième chose, c'est la Sunna. Et ensuite, on a le consensus sur les raisonnements par analogie. Donc, on va un peu revenir sur le Coran. J'aimerais bien un peu le détailler. Et parler dans ce contexte-là de ce que c'est les sciences du Coran. Qu'est-ce qu'on appelle par les sciences du Coran ? Ulum al-Qur'an. Alors, ce sont les sciences qui tournent autour de la compréhension du texte. Tout ce qui nous sert comme outil dans la compréhension du texte. Ou bien, ce sont les sens qui nous mènent vers la compréhension du texte. Alors, comme par exemple la science du tafsir. La science du tafsir, c'est une science à part entière. C'est la science de l'exégèse. C'est une science qui a, elle a sa méthodologie, elle a ses fondateurs, ses hommes, comme on dit, Rijalou. Donc, on a cette science-là, elle a ses hommes, les spécialistes du tafsir. Et les spécialistes du tafsir, donc c'est une science à part entière. Elle a ses fondements, elle a ses ouvrages, elle a ses livres, elle a sa méthodologie. Ce n'est pas n'importe qui va faire l'exégèse. Comme aujourd'hui, ils te ramènent un hadith, ils te disent, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, cela. Tu n'as pas la capacité de comprendre le hadith. Et tu n'as pas la capacité de comprendre le tafsir, le texte lui-même. Tu ne peux pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Parce que le Coran, pour sa compréhension, nécessite plusieurs sciences. La première science, à savoir la science de la langue arabe. Tu ne peux pas comprendre le texte si tu n'as pas la maîtrise des sciences de la langue arabe. On ne peut pas dire la science de la langue arabe, mais les sciences de la langue arabe. Ce sont une vingtaine de sciences à peu près. Les sciences de langue arabe, c'est une vingtaine de sciences. La grammaire, c'est une. La rhétorique, c'est une. Et l'arabe, c'est un. Le bayan, le ma'ani, l'istihara. Il a rêvé. Alors, c'est pour cela que ce n'est pas de donner à n'importe qui de faire les gestes d'un verset. Il faut connaître le verset quand il a été révélé, pourquoi il a été révélé. Savoir s'il s'agit d'un verset qui a été révélé à la Mecque, c'est un verset qui a été révélé. Est-il un verset abrogeant ? Est-il un verset relatif ou absolu ? Est-il un verset spécifique ou général ? Est-il un verset qui est expliqué par un autre verset? Est-il un verset qui est expliqué comme on a des méthodologies? Ensuite, vous avez les spécialistes du tafsir. Chacun, il le voit d'un angle. L'imam Suyuti, par exemple, et l'imam Tabari, et la méthodologie de l'imam Ibn Kathir, c'est de faire l'exégèse du tafsir à partir d'un ensemble de hadiths. Donc, on a ce qu'on appelle tafsir bil ma'thour. Vous avez d'autres spécialistes, ils vont se concentrer sur les versets qui concernent la jurisprudence. Ayatul Ahkam. Vous avez des tafsirs qui vont se spécialiser sur tout ce qui est linguistique, comme l'a fait l'imam Zamakhshari, bien qu'il est mu'tazilite, mais il a beaucoup de choses intéressantes dans son tafsir dont on peut prendre profit. Mais dans la croyance, des fois, il faut faire attention. Vous avez des tafsirs comme celui de l'imam Jawhari Tantawi, c'est un tafsir scientifique, on va dire. Il traite des miracles scientifiques du Coran. D'accord ? Il n'est pas très ancien, c'est un Azharite. J'ai vu des tafsirs, j'ai un tafsir chez moi, un tafsir qui touche qu'au verset qui traite des sujets de la croyance. Donc, chacun voit le tafsir d'un œil. On a besoin aujourd'hui de spécialistes, de tous ces spécialistes de tafsir, on a besoin de grands spécialistes pour un petit peu, c'est pas modernisé, mais voir un regard un peu d'actualité des versets. C'est-à-dire, on peut comprendre le tafsir, puisque c'est la parole d'Allah qui est valable à tous les espaces-temps, d'accord ? On peut avoir un regard sur les sujets d'anthropologie, les sujets de sociologie, les sujets d'économie, les sujets de miracles scientifiques. Aujourd'hui, on parle de les miracles scientifiques. Hein. Il y a plein de versets qui parlent de ces miracles scientifiques. Donc, les sujets d'actualité, d'accord ? Voilà, le tafsir, c'est grand et c'est immense. Tous les spécialistes du tafsir, soit la majorité absolue, écrasante, c'est des jacharites. D'accord ? Alors, parmi les sciences, il y a aussi la science des lectures. Quand on dit lecture, attention, pas dans le sens occidental, lecture veut dire interprétation. Non, lecture, c'est la façon de lire. La façon de lire le Coran. Et quand on dit la façon de le lire, le Coran, il a été révélé par plusieurs lectures. Mais ce ne sont pas des lectures qui divergent. Non, elles sont toutes authentiques. Bien sûr, on a des lectures shadha, c'est-à-dire qui n'ont pas été rapportées d'une façon authentique. Donc, on n'a pas le droit non seulement de les réciter pour prier, ni d'étirer des commandements de faire de jurisprudence. Mais comme ce sont des récitations qui nous ont été rapportées, mais les chaînes de transmission sont pas, on va dire, n'ont pas atteint le degré de... Ils ne sont pas notoires, mutawatir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été rapportés d'une façon très authentique. Donc on les apprend, on les connaît, mais ce n'est pas pour tirer des commandements, ni pour réciter, on les garde. Par contre, les sept lectures connues... Il faut, surtout pour celui qui fait l'exégèse, il doit les connaître. Ensuite, on a des... Hein. Alors, ces lectures-là, je vous ai toujours posé la question, le prophète lisait à partir de quelle lecture? Cette question piège. Cheikh Abdelkader. Le prophète, il lisait le Coran avec quelle lecture? De Hafs ou de Warsh? Ou bien Qumbul ou Hamza ou tu as l'embarras du choix là?
Warsh.
Même Hafs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une lecture. Tu es très nationaliste. Parce que Warsh, il est de chez nous. Warsh, c'est un surnom à lui, parce que comme il était rouquin, il a des points comme ça. Les gens, maintenant, ils vont dans les magasins spécialisés pour le... Warsh, il est d'origine comme ça. D'accord, il avait des points, on l'appelle Warsh. Daniel Gimaret, il ne savait même pas c'est qui était Warsh. Il vient nous faire des cours de croyance. Il m'a dit, c'est Warsh là, il est quoi? Ah ben, tu connais pas Warsh, t'es mal. Tu n'as pas le droit de toucher à... Il ne connaissait pas ce qui est. Il me l'a dit à moi. Oui, il ne savait pas. C'est ça, c'est une des erreurs des orientalistes. Ils ont une bonne recherche, ils sont très avancés dans la recherche. on va dire, des études religieuses, mais ils ont beaucoup de failles. Ils n'ont pas une formation solide, hein, de religieuse. Chez Bouchouel, le Salafi. Oui, il faut comme les Salafis. Pour lui, bon, c'est pas un musulman. Il peut dire des, il dit des bêtises, hein, énormes. Mais ensuite, c'est pas grave pour lui. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lisait avec toutes ses lectures. Il a appris aux sahaba toutes ses lectures. Mais comme la langue arabe, c'est-à-dire les sahaba, ils entendent cette lecture. Ils font la qalqala, ils font le idram, ils font l'ikhfa, hein, qalqala pour dire qul huwallahu ahad, hein, was-samaa'i wat-tariq. Ça s'appelle qalqala. D'accord. Le prophète lisait comme ça. Et tous les compagnons lisaient. Ils lisent sur le Warsh, ils lisent sur le Hafs, mais ils ne redisent pas ces Warsh, puisque Warsh est devenu des siècles après. Donc, ils apprennent, à l'écoute, la lecture, ils l'apprennent par cœur, mais si tu dis à un sahabi, c'est quoi Qalqala, il n'a jamais pas. C'est quoi Qalqala pour lui Même un sahabi, tu lui dis une question en langue arabe, hein, tu dis. Faire le modara, il ne connaît pas c'est quoi faire le modara, faire l'amr. Mais quand il parle, il ne fait pas d'erreur. Donc, ils apprennent, comme ils ont entendu la lecture du prophète, ils la transmettent à leurs élèves comme ils l'ont entendu, et les élèves des élèves transmettent, jusqu'à arriver à un moment donné, il y a des grands spécialistes de lecture qui ont hérité cette lecture, ils se sont spécialisés, ils connaissent ces détails, par peur que cette lecture, elle disparaît, donc ils vont lui mettre des règles. Puisque c'est le cheikh, c'est le spécialiste qui va mettre des règles à cette lecture, donc la dernière lecture, elle va porter son nom. Elle porte son nom, pourquoi? C'est comme les découvertes scientifiques. Vous avez plein de découvertes scientifiques qui portent le nom de ceux qui l'ont découvert. C'est vrai ou non? Mais dans les lectures du Coran, c'est la même chose. L'imam Qumbul, c'est lui, Qumbul. C'est lui qui a fait... les règles d'une lecture, elles portent son nom. Imam al-Kasai, Imam ibn Kathir, l'imam Hafs, Walsh, d'accord. Donc, ce sont des grands spécialistes de lecture, c'est eux qui mettent les règles, ils mettent les règles, donc la lecture, elle porte son nom. Sinon, la lecture, elle existe depuis l'époque du prophète. La même chose pour le fiqh. Imam Malik n'a pas inventé un fiqh. Imam Shafi'i n'a pas inventé un fiqh. Mais il a mis des règles, des méthodologies pour garder ce qu'il a hérité comme fiqh de ce qu'il a appris. Mais par peur qu'il disparaisse, donc il lui fait les règles, il fait la méthodologie, il fait même une façon comment comprendre le texte selon les règles qu'il a appris lui. C'est le faire du prophète. C'est pour ça, c'est rigolo de voir Albani écrire un livre, dire. Il a écrit un livre de faire. Il l'intitulait La façon comment le prophète priait. Indirectement. C'est-à-dire les autres qui ont écrit ces livres-là de la façon de la prière, ils ont raconté n'importe quoi. Il n'y a que lui qui raconte comment le prophète y priait. Ben, et les autres, ils racontent qui? Ben, aussi, hein, ils racontent comment le prophète priait. Mais ce n'est pas parce que tu nous rapportes des hadiths que c'est toi qui as raison. Surtout que entre toi, l'imam Malik et Shafi'i, moi je dis toujours, on ne compare pas une bactérie à un mammouth. C'est comparer l'incomparable. Alors, la science des lectures, qui est une science... très pointu, très détaillé. Il y a la façon comment on prononce la lettre. C'est des récitations. D'accord. Si Kaloun, par exemple, il dit Wahwa. Wahwa. Il ne dit pas Wahwa. Par exemple. D'accord. Entre Hafs et Warsh, dans le Fatiha, Hafs, il dit Maliki Yaoumiddin. Ça. Et Warsh, il dit Maliki Yaoumiddin. D'accord. L'autre, il fait prolongement, l'autre, il ne le fait pas. Et ainsi de suite. Bon. On a une autre lecture, une autre science du Coran. Cette science-là, ça s'appelle, bon, en arabe, ils disent Rasm al-Uthmani. Alors, si on traduit, c'est-à-dire, c'est la façon comment le Coran a été écrit. C'est pour ça qu'ils utilisent le mot Rasm, ce qui veut dire dessin. C'est comme s'ils dessinent la lettre. D'accord? Parce que chez les spécialistes de la langue arabe, et même les spécialistes du Coran, ils nous disent attention, il y a deux. Écritures, on ne peut pas les prendre comme exemple d'écriture. Deux écritures. Le Coran et la poésie. Dans la poésie, tu peux, pour des raisons, pour ça, équilibrer le poème, un mot, tu le, tu tu le casses, tu le... D'accord. Pour que ça rime, pour que ça tombe... D'accord. Parce qu'ils ont des règles, des awzan. Le Coran, la même chose. Le Coran, t'as des fois rahmati, ou rahmati, c'est le ta, elle est fermée, et t'as des fois rahmati, où c'est ouvert. Bibaka, c'est pas bimaka. Donc le Coran, il a sa façon d'écrire. Sa façon comment elle a été écrite. Donc, moi j'ai connu un cheikh, subhanallah, on lisait le Coran dans la table, la filouha, oulala, il était dur, il nous corrigeait le Coran dans les fins détails d'écriture. Il réécrit le Coran du début jusqu'à la fin, il le réécrit de... C'est-à-dire, parce que le Coran, il a une façon d'écrire. Alors pour les points sont venus plus tard. À l'époque des prophètes, il n'y avait pas de points. C'est-à-dire le fa et le qaf, c'est débrouille-toi, c'est toi qui dois savoir qu'il s'agit de fa ou qaf. Fa, c'est un point, qaf, c'est deux points. Le ba, c'est un point en dessous. Je ne sais pas si c'est un ba, un ta, un fa. Mais en tant qu'arabe, lui, dès qu'il voit le mot, il sait de quoi il s'agit. C'est vrai ou non? Mais les points, ils sont venus plus tard, à l'époque de l'Hajjaj. Le Hajjaj, le grand tyran, là. C'est là, les ulamas de son époque, c'est eux qui ont mis les points pour détailler la lettre par peur que les gens ne prononcent pas bien. Donc on a mis des points. Ensuite, l'écriture, elle a évolué. Mais l'écriture, on va dire, Uthmani, pourquoi on l'appelait Uthmani, Rasm al-Uthmani? Façon polo, Uthmani, Nisbatin al-Uthman ibn Affan. Parce que c'est l'époque de Sidna Uthman, c'est à l'époque de Sidna Uthman que tout le Coran il a été rassemblé et écrit dans un seul livre. Donc l'opération, elle a commencé déjà à l'époque de Sidna Bukhassadir, après que le prophète a rejoint son Seigneur. Et il y avait un sahabi, il a dit au Sidna Bukhassadir, il a dit, moi, je, parce que le Coran n'était pas écrit dans un seul livre. Donc les compagnons, ils le connaissent par cœur, mais l'écriture dans un seul livre, un, il a une page, l'autre, il a trois pages, l'autre, il a une table, l'autre, il a dans un, sur un pot de, la peau de mouton ou de chèvre. Donc c'était, chacun, il a des versets, il a des sourates, etc. Mais le rassembler, l'écrire, tout dans un seul livre, le prophète ne l'a pas fait. Alors, imaginons, c'est une lourde responsabilité. On va faire quelque chose que le prophète n'a pas fait. D'accord? Et ça, c'est un argument très fort que ce n'est pas tout ce qui n'a pas fait le prophète qu'on va faire derrière lui, c'est bidin. At-tarku, laysa bidin. Le fait que le prophète n'a pas fait une chose et qu'on va faire après lui, ce n'est pas une innovation. Il faut que cette chose, si on fait une chose que le prophète n'a pas fait, qui se contredit avec les fondements de la charia, ça c'est innovation. Mais ça ne se contredit pas avec les fondements de la charia, ce n'est pas innovation. Parce que les salafis voient l'innovation partout. D'accord? Tout est innovation pour eux. Et la plus grande innovation, c'est eux. C'est-à-dire, la plus grande innovation, c'est ils n'ont pas existé, c'est eux. Est-ce que vous avez compris? Donc, Sidna Uthman ibn Affan, à l'époque de Sidna Abou Bakr al-Siddiq, quand il était le calife, il a commencé à rassembler tous les textes qui sont chez tout le monde. Ils ont commencé à... Sidna Omar ibn Khattab, il a continué le travail. Et c'est l'époque de Sidna Uthman que tout a été, rassemblé dans un seul livre. Et par consensus, tous les sahaba étaient d'accord sur ce texte. Que personne ne vient nous chanter aujourd'hui, comme on entend les orientalistes, ou bien on a quelques, entre guillemets, pseudo-musulmans que j'ai connus dans un colloque à l'école des hautes études où on a des gens, ils viennent, ils disent « Ouais, mais c'est des histoires. Ça y est, ça fait 15 siècles que ce texte, vous pouvez chanter jour et nuit, personne ne vous écoute. On veut, il y a des gens qui veulent remettre en cause le texte qu'on a entre les mains. Oui, on a découvert avec machin. Il y a une étude qui est faite par une femme qui n'est même pas musulmane, elle est d'Irlande. Sur les textes, vous savez, carbon, on utilise le carbon pour revenir aux anciens textes. Il faut que je revoie cette publication qui prouve l'authenticité du Coran qu'on a entre les mains sur des textes très anciens, très originaux. C'est Sidna Uthman ibn Affan, après avoir réuni tous les sahabas, tout le monde est d'accord que ce qu'on a écrit est le Coran révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette écriture, parce que le prophète, il avait des gens spécialistes, des sahabas spécialistes d'écriture. Ils ne dictaient pas à n'importe qui. Ils dictaient à des gens, vraiment, ils étaient à peu près, ceux qui disent 15, 17, hein, entre 12 et 17. Sahabi parmi eux, c'est Muawiyah, que les chiites attaquent jour et nuit. C'était quelqu'un qui n'était pas fiable. le prophète ne lui aurait pas donné cette lourde responsabilité d'être parmi ceux qui écrivaient le Coran. Donc ils écrivaient le Coran, et à l'époque c'est Othman, ils ont écrit 4 copies qu'ils ont envoyées à travers le monde musulman, dans les 4 coins du monde musulman. Bien sûr, ils envoient le Coran avec toute une armée,
avec
des spécialistes, exactement, de lecture, d'écriture, etc. Parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est-à-dire arriver là-bas, parce qu'ils envoient en Asie centrale, ils vont faire plusieurs copies. Il n'y avait pas des imprimeries. Donc, ils s'assoient, le spécialiste, le grand cheikh, hein, le sahabi qui est là, et tous les sahabas qui sont avec lui, ils vont ramener ceux qui écrivent. Ils vont écrire, ils vont vérifier ce qu'ils ont écrit. Et chaque copie, il faut vérifier la copie de la copie de la copie. Parce qu'on a besoin d'envoyer à tout le monde. D'accord ? De la façon d'écrire et de la façon prononcée, et aussi de l'exégèse, etc. Les ennemis d'islam, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une tribu qui voulait effacer l'islam de l'univers. Ils ont envoyé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on est musulmans. Et on veut apprendre, on est très nombreux, on veut apprendre le Coran. Envoyez-nous vos plus grands spécialistes pour qu'on soit des bons connaisseurs du Coran, mémorisateurs. Le prophète, il a envoyé 70 compagnons. 70 compagnons des meilleurs récitateurs et qui écrivaient le Coran al-Karim. Ils les ont reçus, ils les ont tous tués. Ils les ont tous massacrés. Les 70 sahabis sont morts. Dans leur intérêt, ils disent, tiens, on a tué tous ces sahabas qui connaissent le Coran al-Karim. Le Coran, il va disparaître. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran al-Karim, nous avons fait descendre le Coran, dhikr c'est le Coran, wa inna lahu lahafidun, c'est nous qui assurons, nous garantirons sa protection. Personne ne pourra le falsifier. Jusqu'à présent, on a fait des tentatives, des centaines de milliers de tentatives de falsifier, ne serait-ce la dernière, je ne sais pas si vous avez fait sur Internet, ça me fait rire. Sur des tablettes, on a écrit Coran Karim, ça a inversé, ça a sorti des chiffres, des machins. C'est du n'importe quoi. Parce que les gens, ils connaissent Coran Karim par cœur. Sa mémorisation, c'est vrai qu'au Maghreb, on est beaucoup plus avancé par rapport à l'Orient sur cette question de mémorisation et l'écriture. En Orient, il y a des gens qui apprennent, mais pas comme chez nous. Au Maghreb, on est beaucoup plus assidus sur les petits-enfants. Tout le monde apprenait dans les Aouïa, etc. Et même l'écriture. En Orient, on n'écrit plus sur les tables. Mais chez nous, le Coran, on l'écrit.
Tablettes,
exactement. C'est ça. En Orient, c'est sur le Coran. Mais chez nous, tout le monde l'écrit. Et je me rappelle, nous, on écrivait même sur les tables, on l'écrit de ce côté-là, on écrit le Coran. Et de l'autre côté, on écrit le fiqh. On apprenait par cœur le fiqh comme on apprenait le Coran al-Karim. Le Mukhtasar Khalil al-Fiyat ibn Malik, ou bien on les mémorisait comme on était jeune, on n'avait pas cette philosophie horizontale qui nous a pourri l'esprit. Mais il nous disait, Cheikh Bilkbir, moi je me demandais, parce que le matin il nous donnait beaucoup de citrouilles. Nous on mangeait la citrouille, on mangeait le qala. Le qala. Courgettes. Les courgettes. J'étais étonné, tous les jours ils mangeaient ça. Et ensuite, le cheikh, il nous a dit, c'est bien pour la mémorisation. C'est-à-dire, il leur donne à manger, mélangé avec des soupes, un chien, etc. Ils mangeaient beaucoup de protéines aussi avec ils mangeaient le foie, beaucoup de fois le matin. Le matin, hein, c'était ça, breakfast à l'anglaise. Là-bas, c'est du thé, pas de café. Donc, avec du miel, avec de ksra, avec. J'ai du vrai bio, hein, de toute façon. Et subhanallah, ça aide énormément pour la mémorisation. Et je ne comprenais pas, moi, je rendais visite à mon cheikh. J'avais un cheikh Mouloud, je lui rendais visite. À chaque fois que je lui rends visite, il me donne une grande citrouille. Moi, je ne comprenais pas. Et j'avais honte parce qu'elle faisait un demi-mètre et je marche comme. J'avais honte. J'étais jeune et chaque fois que je vais le voir, il me donne une. Mais c'est plus tard que j'ai compris que ça, c'est bien pour la mémorisation. Et je lui dis, Sidi, est-ce que je peux la couvrir? Tu imagines, cette trouille. Elle est dans le quartier, tout le monde dit, oui, sors celui-là. On dirait un bazooka que tu marches. Alors je la couvre avec un journal, mais tu vas beaucoup rire. Hein, c'est une grande citrouille. Lui, il a toujours des citrouilles chez lui. Et c'est bien donc pour la mémorisation, j'ai compris plus tard. Alors, après qu'ils ont exterminé les Sahaba, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était serein, parce que c'est Allah qui est chargé de la protection. Alors, ouais. Alors, parmi les autres sciences, la science des... ilmu i'jaz al-Qur'an, la science du i'jaz, c'est-à-dire, c'est le défi du Coran, ou bien, on va dire, le défi coranique. Rappelez-vous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, il a défié les gens de Quraysh, les gens de Quraysh qui étaient des grands spécialistes de langue arabe. Hein, c'était grands maîtres de la langue arabe. Ils connaissaient, ils faisaient des poésies. Des poésies de 300 vers, 400 vers. Et vous savez, c'est des gens tellement, ils étaient forts dans la poésie, il peut te sortir une poésie d'une centaine de 200, 300, 400, 500 vers sur place. Selon les circonstances. Ils voient quelque chose. Alors, ils gagnaient de l'argent. Ils allaient dans un souk. Un souk, à l'époque de Quraysh, s'appelle souk al-Okaf. Souk où les poètes, ils sont là. Ils attendent que des notables venaient. Dès qu'il y a un notable, il se met debout. Il lui donne il fait de la poésie. Oh, toi, le grand soleil. Il lui donne. Et l'autre, il prend un peu d'or. Allez, il lui donne. Même à l'époque des califes. Hein, il y avait des califes qui Alors, il y avait un poète, quand même, j'ai oublié le nom. Il a écrit une poésie, subhanallah, tellement ces gens-là étaient forts. Et lui, il n'aimait pas ce calife-là, il n'aimait pas. Mais il a dit, attends, on va gagner de l'argent, mais on va lui faire un coup. Il a écrit une poésie, qui lui fait des éloges. Vous savez, la langue arabe, ça se lit de droite à gauche. Vous êtes d'accord avec moi? Il lui a fait cette poésie, l'autre, il était très content. Mais quand il est parti, il a pris l'argent, etc., il lui a dit, dites au calife de la lire de la gauche à droite. Quand tu la lis de droite à gauche, c'est des éloges, mais quand tu la lis de gauche à droite, c'est une critique. Regardez tellement ils étaient forts, ces gens-là. Alors, l'i'jaz al-Qur'an défie les gens de Quraysh de ramener ne serait-ce 10 versets. Ensuite, il les défie de ramener ne serait-ce un verset dans la force linguistique, dans la force syntaxe, dans la force de la façon comment il rime, de la face de l'information qu'il ramène, parce que quand même c'est un texte où il y a de la jurisprudence, il y a de l'histoire, il y a de la croyance, il y a des informations qui concernent les animaux, il y a qui concerne l'au-delà, qui concerne les djinns, qui concerne les prophètes, mais tout est fait d'une façon, on va dire, rimée et fort, très fort linguistiquement. Même les grands spécialistes de la langue arabe, quand ils prennent un verset, ils essayent de faire l'analyse grammaticale arabe. Ils lui ont donné au Coran sa spécificité d'analyse grammaticale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer ce qu'on a habituellement l'habitude d'utiliser comme grammaire, l'analyse grammaticale arabe, sur les gens. On ne peut pas le faire sur Allah. On ne peut pas parler d'Allah mefa'ulbe. C'est-à-dire, mefa'ulbe, c'est-à-dire celui qui encaisse la chose. D'accord ? Donc, ils ont une grammaire spécifique pour le Coran. Yes. Alors, l'i'jaz au Coran. Ensuite, cette question du i'jaz, le défi qui a été lancé par le Coran al-Karim à l'époque, même Baqlani, il a un très très bon livre sur cette question du i'jaz, l'i'jaz au Coran al-Karim, deux tomes. Donc, c'était avec l'i'jaz au Coran al-Karim, il a lancé son défi aux Arabes, puisque c'était des maîtres de la langue arabe. Il a laissé son défi à Quraysh. Parce que c'est des maîtres, mais puisque le Coran c'est la parole d'Allah et qui est valable à tous les espaces-temps, donc son défi restera jusqu'à la fin du monde dans tous les espaces-temps. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui on vit dans un monde de technologie, le Coran nous défie dans notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire les miracles scientifiques du Coran. Donc, on trouvera le Coran nous parle des choses que l'être humain a découvert aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'atome, je vous ai parlé de l'expansion de l'univers, je vous ai parlé de l'oxygène qui diminue à chaque fois que la personne va s'élever. On a parlé des vagues qui sont dans le fond des océans que le commandant Cousteau a découvert. Donc, c'est des choses incroyables quand même. L'évolution du fœtus quand il est dans le ventre de sa maman, on a connu ça que quand on a l'échographie, etc. Donc, c'est quand même avec des détails incroyables. Le Prophète Karim, il donne des détails incroyables. Plein. Vous avez l'imam Sheikh Zandani du Yémen, un grand savant qui a beaucoup écrit sur cette question des miracles scientifiques du Coran. Vous avez le livre de Kishrid, je pense. Il parle des 1000 vérités scientifiques du Coran. Vous avez plein d'ouvrages qui traitent des miracles scientifiques du Coran. Et n'oublions pas les miracles scientifiques de la Sunna aussi. Donc, les miracles scientifiques. Alors, sur cette question-là, moi, je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse. Je pense que c'est un domaine. J'ai parlé avec Cheikh Bodri personnellement sur ce sujet, rahimahullah. Je lui ai posé une fois une question. Je lui ai dit, est-ce que on peut dire qu'il y a une théorie par rapport au Coran? Est-ce qu'on peut dire ça, Nadariya? Est-ce qu'on peut dire la théorie économique du Coran? Il m'a dit on peut. Il m'a dit on a le droit. Puisque on ne parle pas du Coran, on parle de notre théorie qu'on a compris du texte. D'accord, ça reste, c'est-à-dire notre compréhension. Parce que pourquoi je vous dis ça? J'ai pas vu des gens travailler, c'est facile de travailler, de tirer les miracles scientifiques du Coran, technologiques. Mais on aimerait bien que des grands spécialistes en économie, en sociologie, en anthropologie, en archéologie, nous sortent les miracles scientifiques dans ce sens, les miracles économiques, c'est-à-dire comment le Coran voit l'économie, quelle est la logique économique du Coran, quels sont les miracles, par exemple, du point de vue archéologique, les miracles du point de vue, épistémologique. Épistémologique, c'est-à-dire la philosophie des sciences. Donc, on a plein de miracles, puisque ce sont des sciences aujourd'hui qui sont d'actualité, d'aujourd'hui. On a le droit, à condition, si on n'est pas des grands savants, il ne faut pas s'avancer. C'est pas un économiste, n'est pas obligé d'être un grand savant de l'exégèse. Il faut qu'il travaille avec des spécialistes de l'exégèse. Il faut, parce que c'est eux qui vont être ces garde-fous, pour ne pas dire des bêtises. Hein, parce que j'en ai vu une fois un ministre de l'économie algérien, un ancien ministre, qui est un ancien communiste. Qui était, les communistes chez nous, ce n'est pas des gens athées, mais ils ont un peu, on va dire, ils croient à l'existence de Dieu, point bas. Et il a découvert le Coran. Je l'ai rencontré une fois. Et je trouve le monsieur en train de faire l'exégèse. Comme c'est un ministre d'économie, c'est un très bon économiste. Et je le trouve en train de prendre le Coran. Il avait un Coran. Il fait au bord du Coran, déjà d'ailleurs on n'a pas le droit d'écrire sur le Coran. Et lui sur les bords, il fait son interprétation économique. Il me dit là, je dis attends. Je dis, c'est ce que tu as compris, mais est-ce que tu as lu ce que les spécialistes de l'exégèse ont dit sur ce verset? Je comprends que tu as bien. Il est économiste bien. Il est de tendance gauche. J'ai rien contre la gauche. Je dis, c'est bien. La façon de voir marxiste, léniniste, etc., tout ce que tu veux. Mais tu donnes des interprétations sans que tu vois ce que les spécialistes de l'exégèse. Il faut que tu lis directement. Tu apprends déjà. Tu vois? Lui, il a cru qu'il connaît l'arabe. Il connaît un petit peu. Hein, pas... Il va faire l'exégèse économique du Coran. Selon la conception marxiste, en plus. il a dit des choses. Bon, c'est un ancien ministre de l'économie. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, les miracles. Le Coran, c'est une mine d'or, une mine. Plus on sort ses trésors, plus on découvre qu'il y en a tellement. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. D'accord. Allah nous parle de cela. C'est-à-dire, si toute la mer était de l'encre, hein, et toutes les arbres étaient des plumes, elles termineront. C'est-à-dire, tu écris, cette encre terminera, tous ces océans termineront, et la parole d'Allah ne terminera pas. C'est-à-dire, elle est absolue. C'est pour cela que les mufassirines, il y a beaucoup de mufassirines. Pourquoi il y a beaucoup de mufassirines? Chacun donne selon ce qu'il a appris, ce qu'il a comme science, c'est-à-dire Je vous donne un exemple banal. Vous savez, les gens qui vont dans les océans pour trouver des choses incroyables dans les océans, ce n'est pas tout le monde qui peut descendre dans les profondeurs. Ça devient d'accord avec moi. Tout dépend du moyen des moyens que tu utilises. Plus tes moyens sont sophistiqués, qui peuvent te permettre d'approfondir dans les océans, plus tu sors quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? La même chose pour les mots fasciles. Plus tu as l'outil qui te permet de plonger dans le verset, hein, tu as les outils, mais les outils, on va dire, crédibles, scientifiques, reconnus, acceptés. Regardez Cheikh Al-Alawi, qaddasallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Alawi, bien sûr, il fait de l'exégèse, même Ibn Ajiba, par exemple. Ibn Ajiba, il fait de l'exégèse. Tous les versets que Ibn Ajiba traite, un grand soufi marocain, il donne le tafsir du texte, dans l'exégèse, d'une façon, on va dire, connue par les mufassirin. Ce qu'on trouve, c'est Qurtubi, ce qu'on trouve, c'est Ibn Kathir, c'est Tabari. D'accord? Il récite, il donne les causes de la révélation, il donne qu'est-ce qu'on a tiré comme commandement du verset, il donne est-ce que c'est un verset relatif, absolu, qui a été révélé à Mecca ou à Medina, etc. Ensuite, le même texte, il lui donne une interprétation soufie. Il n'a rien à voir. Il va te sortir des trucs que c'est... Subhanallah. D'accord?
Il s'appelle comment?
Ibn Ajiba. Alors, Cheikh Al-Alawi, la même chose. Il va beaucoup plus loin que cela. Il avait l'intention de faire le tafsir de tout le Coran. Malheureusement, il n'a pas pu faire tout le Coran. Cheikh Al-Alawi, dans son tafsir, Bahr al-Masjour, fait tafsir le Coran, Bimahd al-Nour. Alors, il dit, chaque verset, je vais lui donner 4 degrés d'interprétation. 4 degrés de tafsir. Un tafsir qui est comme celui qu'on trouve chez les grands mufassirines, celui de Qurtubi, de Ibn Kathir, de Tabari, qu'on connaît, hein, les tafsirs qu'on connaît. Ensuite, il dit, il va approfondir, deuxième, c'est-à-dire première vitesse, ça c'est le tafsir, il passe le même verset, il va donner, il dit ça, c'est un autre, ça concerne les ulama, que les grands savants qui vont comprendre cette interprétation. Ensuite, il passe au troisième degré. Il dit ça, c'est destiné aux saints. C'est les awliya, les grands saints qui vont comprendre ce que je dis. Et il passe à l'étape quatrième vitesse, quatrième interprétation du même verset. Tafsir sirr sirr, il dit le secret du secret. Déjà, troisième, c'est déjà un secret. Alors que le secret du secret. Subhanallah. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit li kulli ayatin haddun wa matla'un. Où le prophète dit chaque verset, et Cheikh Al-Alawi il démarre de ça. Il dit chaque verset, il a un début et une fin, et il a un sens littéral et un sens profond. Donc on a 4 sens. D'accord? C'est-à-dire le sens du début, c'est-à-dire qu'est-ce que le verset veut nous dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on tire comme leçon, d'accord, début et la fin. Et le sens littéral, que tout le monde comprend, et le sens profond, Cheikh Al-Alawi, là, regardez ce qu'il a écrit dans Tafsir Surat al-Asr, je ne sais pas si ça a été traduit en français ou non, vous regardez de ce qu'il a écrit sur Surat al-Waqi'a ou Surat al-Rahman, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment... Déjà, les soufis, dans leur tafsir, on a des tafsirs, on appelle ça Tafsir al-Ishari. C'est les soufis, on appelle ça Tafsir al-Ishari. Alors, le tafsir d'Ibn Arabi qu'on trouve aujourd'hui, les chercheurs que j'ai rencontrés qui sont spécialistes de l'arabe, ils ont dit c'est pas de lui, c'est pas son style. Alors le tafsir de Ibn Arabi de quelques versets, on peut le trouver dans les Futuhat al-Makkiyah. Futuhat al-Makkiyah, un ouvrage qui s'appelle les Futuhat, je sais pas comment on interprète. Comment on dit en français Futuhat al-Makkiyah? Les ouvertures mécoises ou quelque chose comme ça. Qui est de 16 tomes, hein, 16 tomes. C'est un ouvrage de 16 tomes. J'ai lu le premier tome par chaîne de transmission d'un cheikh syrien jusqu'à Ibn Arabi. Donc je le rapporte par chaîne de transmission jusqu'à Ibn Arabi, mais juste le premier tome qui parle de tawhid, etc. Alors, tafsir Ibn Abbas, par exemple, attention, il n'est pas de lui. Vous allez trouver un tafsir qui se vend Al-Miqbas, Tafsir ibn Abbas, non, ce n'est pas de lui, il n'est pas rapporté par chaîne de transmission. Le Tafsir ibn Abbas, c'est l'exégèse de Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui se trouve chez les différents tafsirs. On le trouve chez Tabari, on le trouve chez Ibn Kathir, on le trouve chez Qurtubi, parce qu'eux, ils ramènent cette parole de Sayyidina Abdullah ibn Abbas par chaîne de transmission. Mais un livre de Tafsir ibn Abbas, c'est un compagnon. Il a écrit. Pas de sérieux, quand même. Alors, les miracles scientifiques, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai rencontré. Vous savez que je vous ai dit que chaque année, les musulmans se rencontrent avec les grands spécialistes de la charia, avec des grands spécialistes. Ils préparent des sujets, hein, du monde de la. Scientifiques, des mathématiciens, des archéologues, des médecins, tout ce que vous voulez, pour parler des miracles scientifiques du Coran et de la Sunna. Alors, ces grands spécialistes musulmans des miracles scientifiques, ils font très attention. J'ai parlé avec un d'eux qui est, lui, il est économiste, mais il travaille avec eux. Il m'a dit, on fait très attention parce que, malheureusement, les publications, je n'ai pas vu en français, hein, j'ai vu un peu sur Internet, ils sont bien, mais les colloques, ils sont publiés soit en arabe, soit en anglais, surtout. En français, je n'ai pas trouvé. Et chaque colloque, vous avez deux, trois grands ouvrages comme ça, hein, qui parlent des miracles scientifiques, les nouvelles théories. Alors, il m'a dit, ce monsieur, ce cheikh, il m'a dit que, une fois qu'on a une découverte scientifique, une découverte scientifique vérifiée d'une façon sûre et absolument sûre. On est sûr que... Parce que des fois, on nous dit une chose, ensuite, après 10 ans, ah non, on s'est trompé. Moi, non, découverte scientifique, et ça y est. La personne qui va nous dire que la Terre, aujourd'hui, elle est plate. Parce que... Hein, parce que déjà, les gens, ils sont sortis, ils l'ont vu. Hein. Donc, il faut que les... Il y a même des gens qui sont... Ils étaient sur orbite, ils ont vu la Terre, elle est ronde. Donc, khlas. Donc, il m'a dit qu'on a, une fois qu'on est sûr et qu'on sait que le verset ou le hadith, il m'a dit, regardez le secret des hadiths faibles. On a plein, des milliers de hadiths faibles qui traitent des questions des miracles scientifiques. Ça, c'est en réponse au fou, là. C'est le fait qu'il a dit... Il faut brûler tous les hadiths faibles. Il faut laisser que les hadiths authentiques. Il n'a rien compris. L'imam Tirmidhi ne l'a pas fait. L'imam Bukhari ne l'a pas fait. L'imam Abu Daoud ne l'a pas fait. Et lui, monsieur, il veut brûler. Pourquoi tu veux brûler la sunna? À qui profite ce crime de brûler la sunna? Pas pour l'islam. Soit disant, on va purifier la sunna. Ben non. C'est pas parce que c'est un hadith faible que le prophète ne l'a pas dit. Juste, il ne remplit pas les conditions d'un hadith authentique. La preuve que ce cheikh m'a dit plein de hadiths fable qui traite des sujets détaillés à un degré incroyable. Je vous ai ramené un exemple sur une découverte scientifique que la NASA a fait sur la question du déclenchement, une publication qui est le déclenchement du cœur du fœtus. Quand est-ce que à quel jour il commence à battre? C'est le 42e jour. 42e jour, le cœur commence à... Tac, tac, c'est pas le premier jour. Ça, voilà. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, rapporté par l'imam Ahmed, que le fœtus, c'est dans le 42e jour que l'ange lui insuffle l'âme. Un hadith. Donc, on voit une correspondance entre ces deux cas. Alors, on a plein de... Il m'a dit, on a des centaines de milliers de théories scientifiques qui sont en instance, en stand-by. Ils attendent. Et qu'on attend leur vérification à ce que c'est des choses qui sont irréfutables. Il m'a dit, si on commence à les sentir, c'est des centaines de milliers. Il m'a dit, il y a tellement de preuves dans le Coran et la Sunna, interminable. Il m'a dit, mais on ne sort pas tout parce que nous, on vérifie. Est-ce que c'est vraiment... Regardez la question de l'expansion de l'univers, subhanallah. Tellement, le Coran, il est clair. Et tellement c'est devenu aujourd'hui une réalité, l'expansion de l'univers, que il y a des ulama qui sont spéciales de l'univers. Ils sont... Regardez la question de... ça fait 5 ans, hein, Wal-Najmi, Wal-Sama et Wal-Tariq. C'est-à-dire, on a découvert une étoile. La NASA, quand ils ont entendu ce son-là, Ils entendent, c'est ceux qui ont publié l'article, ils ne connaissent pas le Coran Karim, les spécialistes de la NASA. Ils ont dit, ils ont découvert une étoile, un son qui vient de cette étoile-là, comme si tu prends un marteau et tu frappes. Tac, tac, tac. Et le Coran Karim, il parle de ça. Les ulamas, ils ont dit, c'est le Coran, il en a parlé. Donc, ceux de la NASA, ils ont dit, hein, ils ont utilisé le mot marteau. C'est-à-dire, c'est comme si tu entends un marteau, un son qui vient. Le Coran Karim, il parle de ulamas, ils ont dit, je pense que quelqu'un fera. Alors, on a ce Ijaz, c'est-à-dire cette question. C'est une science à part entière. Hein. C'est une science, là, c'est sa méthodologie. Si un monde qui va venir, c'est un monde, je ne sais pas moi, un monde numérique ou la folie de l'être humain, dans ça, où est-ce qu'il va ? Le Coran al-Karim, il sera à jour. Il va répondre. Sauf qu'il lui faut ses hommes qui vont le faire sortir. Qu'est-ce qu'il a comme trésor ? Alors, on a une autre science, la science de l'arabe le Coran al-Karim, l'analyse grammaticale du Coran. Alors, l'imam Soyouti, un jour, il a dit, je voulais écrire un livre que personne n'a écrit, je voulais écrire, c'est-à-dire dans une science où personne ne m'a précédé. Il voulait faire l'analyse grammaticale, l'arabe le Coran al-Karim. Déjà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu vas faire le arabe, ouh là là. Soit bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou bien la hawla wa la quwwata illa billah. Quand on faisait les arabes, je me rappelle, dans la zawiya, c'est laisse tomber. Et Soyouti, il voulait faire l'arabe, il a trouvé, oh, il y a des ulama qui l'ont précédé. Ils ont déjà fait l'arabe de l'Al-Qur'an al-Karim. Quand il a vu comme ça, il a dit, oh, je vais faire l'arabe de Mousnad de l'imam Ahmed. Allez, il est allé faire l'arabe du Mousnad. Tout un livre de hadith, des tomes, il va lui faire l'arabe, l'analyse grammaticale. Alors, et ainsi de suite, de différentes sciences. On a la science du Nasr et Mansour, la science de l'abrogé abrogeant. On a la science du Mekki et Madani, connaître les versets et sourates qui ont été révélés à la Mecque, ceux qui ont été révélés à Médine. On a la science de savoir quels sont les versets qui ont été révélés à la nuit, quels sont les versets qui ont été révélés le jour. La science de quelques versets qui ont été révélés quand le prophète était en voyage, ou loin de Médine, et ce, quand il était à Médine, etc., etc. Donc, on a les sciences du Coran. Il y a des sciences du Coran. Alors, on a des livres qui traitent de ces questions-là, des sciences du Coran. On en a beaucoup. Hein. Je peux vous citer les plus connus. On a celui de l'imam Zarkashi, les sciences du Coran de l'imam Zarkashi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les miracles du Coran de l'imam Baqillani. On est celui de Soyouti, il s'appelle. Un parmi les grands, je crois que l'imam Soyouti, subhanallah, vous savez combien il a de livres, l'imam Soyouti? Il a plus de 500 livres. Et ce livre-là, l'itqan fi ulum al-Qur'an, itqan, c'est-à-dire la perfection. Le mot itqan veut dire la perfection. Il lui a donné ce titre-là, la perfection dans la science du Coran. C'est un des meilleurs livres. L'imam Soyouti, il a vécu dans le 10e siècle. L'imam Soyouti, c'est une grande sommité. Et moi, je comprends Cheikh Ahmed Al-Ghimari. Vous entendez parler de Ahmed Al-Ghimari. On a parlé, ya Jama'a. Hein? On a dit au Maroc, on a deux grandes écoles contemporaines spécialistes du hadith, des grandes sommités. On a les Kattani et les Ghimari. Les Ghimari, ils sont cinq frères. Le plus grand, le plus âgé, s'appelle Ahmed. C'est le plus savant parmi ces cinq frères. Il est le plus âgé, d'ailleurs. Et les plus sachants, savants dans la science du hadith. Sinon, le plus savant au solfaire, dans le fer, et dans le tafsir, etc., c'est Abdullah al-Rimari. D'accord. Je ne rapporte pas de lui directement. Je ne l'ai pas rencontré, Cheikh Abdullah al-Rimari. Je n'ai pas eu la chance. Mais je rapporte de ses élèves, surtout Sayyid Cheikh Saïd Mamdouh, un grand, grand, grand savant du hadith qui est toujours vivant. Un jour, je l'appellerai. Je ne sais même pas si j'ai son numéro de téléphone chez moi. Un jour, je l'appellerai, Inch'Allah, et on profitera de ses doigts. Je ne m'appelle pas que si j'ai... Attendez, je vais voir si j'ai son numéro de téléphone. Je vais
pour la baraka, on va essayer de... Essayer, je ne sais pas si c'est dans l'autre téléphone. Allah a'lam. Lance la Nabi, c'est j'ai son numéro. Ah, il est là. Je vais essayer de l'appeler et essayer de voir sa baraka. Je lui dis, on est en train de parler de lui. C'est mon cher, hein, c'est mon cher en sens du hadith. Je le fais souvent pour avoir la baraka, mais j'espère que... Il est quelle heure d'ailleurs? Là, il est 5h, il y a 2h entre nous. J'espère qu'il me répondra. Allez, on va vous faire profiter un petit peu. Mets-le au parleur.
C'est pas le groupe de prière. 5h moins, 5h, donc il est 6h, 7h.
Non, peut-être qu'il prie. On va attendre.
Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Maulana, kayfa haluk? معكم خادمكم عبد الرحمن من باريس سيدي كيف الحال اشتقنا اليكم
سيدي عبد الرحمن كيف حالك
والله يا سيدي مشتاقون اليكم الى درجه لا تتصور
الله يوفقك ويكرمك ويفتح علينا وعليك فتح العارفين
امين سيدي
وينصركم على اعدائكم وعلى اعداء المسلمين
امين يا مولانا يا مولانا سيد الشيخ انا في الدرس الان ووضعت المكبر الطلبة كلهم يستمعون إليك والله وأنا أتكلم في درسي في علوم القرآن وتطرقت إلى الإمام السيوطي ثم تذكرت أئمتنا من الغماريين وتكلمت على سيدي عبد الله الغماري وسيدي أحمد الغماري ثم قلت عرفت هؤلاء الناس ببركة سيدي الشيخ سعيد ممدوح فقلت والله لا أكلمنه حتى يستمع له الطلبة وينتفعون به فهم يستمعون إليك مولانا
والسلام على رسول الله الإمام الحافظ الصوفي المتفنن العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي الشاذلي المتوفى سنة 911 كان من أكابر العلماء المتفننين العارفين المصنفين وكان شيخا من شيوخ الفتوح العلماء وأصناف علماء تستفيد منهم وعلماء يفتح الله عليك بهم.
الله الله.
فالحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من العلماء الذين يفتح الله عليك بهم. وأنا أطلب من الإخوة إن شاء الله تعالى أن يخصصوا كتابا من كتب الحافظ السيوطي ليقرأوها.
نعم سيدي.
كتب الحافظ السيوطي في فنون كثيرة في الحديث والتفسير وعلوم القرآن.
نعم مولانا هم نحن بصدد الكلام عن كتاب الإتقان مولانا
وكتاب الإتقان في علوم القرآن الحافظ السيوطي هذا كتاب جليل عظيم وهذا الكتاب اختصره السيد محمد بن علوي المالكي
ما شاء الله
وهناك يعني تنبيهات كتبها سيد عبد الله بن الصديق سماء الإحسان في التعقيد على الإتقان هذه مطبوعة طيبة جدا
ما شاء الله
طالب العلم يعني الذي يعتني بالإتقان ينبغي أن يقرأها إن شاء الله تعالى
أمين
فتح الله عليكم
مولانا أنا تطرقت لل سامحني سيدي تطرقت للعلامة السيوطي وكنت أتكلم عن انتصار شيخنا سيدي أحمد الغماري للإمام السيوطي رحمه الله
صح كان سيد أحمد انتصر لما عندما كان المناوي يتعقب السيوطي في
المداوي
القدير شرح الكلام القدير
نعم
كان السيد احمد ينتصر للسيوطي ويقول هو اعده كشيخ من شيوخي
ما شاء الله
يعني السيوطي له يعني حقيقه له الغماريون لهم تعلق كبير
الله الله
بالحافظ السيوطي وعنده كتاب رساله طيبه تأييد الحقيقه العليه وتشهيد الطريقه الشاذليه
نعم مولانا
أنا طبعا
تبع سيدي
عبد الله بن
الصديق الغماري ما شاء الله
الحافظ السيوطي هذا قدس كبير و...
الله الله
واحد علم وربنا ينصرنا به أمين. إن شاء الله وينفعنا به ويكرمنا بأسراري وأنواري
أمين.
وحصلت لي معه كذلك أنا حصل لي معه
ما شاء الله
وأسرار
الله الله
وأفكار
ما شاء الله
رضي الله عنه وأرضاه
يا سيدي
هذا العالم الجليل
الحمد لله والله يا سيدي نحن نحمد الله أن عرفنا بكم وأننا التقينا بكم وأخذنا وربطتمونا بسلسلة الغمارية وأسانيد أهل الله إلى رسول الله، فهذا كله ببركتكم وب
الفضل منكم ولكم يا
سيدي. لا يا مولانا، الفضل منكم ونحن خدامكم، وسامحنا يا سيدي إن أثقلنا عليكم.
سلامنا لجميع الإخوة.
يسمعون إليك وهم خاشعين يستمعون إليك وهم خاشعين. فتح الله عليك دعواتكم مولانا. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est pas Abd al-Rahman qui parle français là. Ça, celui-là, c'est considéré dans le monde musulman parmi les meilleurs grands spécialistes de la science du hadith. Vous l'avez entendu, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu, mais bon, je vais résumer ce qu'il a dit. C'est le cheikh, il a refuté Cheikh Al-Albani dans un ouvrage de 8 tomes. 8 tomes. C'est une des grandes... L'Égypte, là, j'ai parlé avec lui d'Égypte. C'est un grand savant du hadith. Donc, je c'est mon cheikh, un de mes chouyours, que je suis très, très, très fier de lui. Il est vieux. J'étais chez lui, il a beaucoup écrit. Là, parce que moi, quand j'ai parlé de Suyuti, et l'imam Suyuti, il a écrit une encyclopédie de hadith. Il y a un qui est venu après lui, qui s'appelle Manawi, qui est un ash'arite, etc. Il l'a critiqué. Et personne n'a osé de remettre en cause la critique de Manawi à Suyuti. Et Suyuti, c'est une grande sommité. Jusqu'à ce qu'un savant contemporain, un des cinq frères Rimari, qui s'appelle Ahmed, le plus âgé, il a écrit un ouvrage de 5 tomes en prison pour refuter Manawi, pour défendre Suyuti. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que je me suis rappelé. Et moi, Ahmed Rimari, Ali Rimari, je n'ai rencontré personne. Par contre, j'ai rencontré Cheikh Saïd Mamdouh, qui est élève de Cheikh Abdullah Al-Rimari. D'accord? Qui l'a connu beaucoup, très longtemps, etc. Donc, toutes les chaînes de transmission du hadith, alhamdoulilah, je les rapporte à travers Cheikh Saïd Mamdouh jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et, de toute façon, il a dit, je vous invite, et c'est bien de lire un des livres de l'imam Suyuti, parce qu'il a une grande, grande baraka, etc. Et je lui dis, on est en train de parler, justement, d'un de ses ouvrages. D'ailleurs, il m'a donné une bonne information que je ne savais pas. Un grand savant de Cheikh Alaoui Maliki, il m'a dit, il a résumé l'ouvrage de Suyuti, et son Cheikh Abdullah Al-Rimari, il a fait des remarques sur l'ouvrage de l'imam Suyuti, et il vous fait beaucoup de doigts, il m'a dit de vous passer le salam, ouais, etc. Ça fait quand même, c'est venu comme ça, je ne sais pas. Et il faut que je l'appelle, parce que je l'ai appelé, ça fait à peu près 2 mois. Je l'appelle de temps en temps, mais il est âgé. J'ai été chez lui en Égypte. J'ai ijaza de lui. Il écrit beaucoup. Sa spécialité, c'est le hadith. Il écrit beaucoup, 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 beaucoup. Donc, alhamdoulilah, il nous a fait tous doigts. C'est une grande baraka. Qu'Allah le récompense. Alors, revenons à notre sujet. Vous avez eu la baraka de Dua. Hein? Encore une fois, venez au cours, vous avez la baraka. Alors, dans les sciences du Coran, donc on a plusieurs sciences. Cette science parmi les ouvrages, j'ai dit celui de l'imam Zarkashi, celui de l'imam Itqan. Et il y a ce livre-là aussi d'un grand savant, Nourdin Itr. Hein, Nourdin Itr, ça c'est un grand savant de Syrie. Dont la spécialité, ce n'est pas la science du Coran, mais la spécialité est la science du hadith. Mais il a écrit un livre dans les sciences du Coran, que je trouve un livre vraiment, vraiment remarquable, moderne, remarquable. On lira, Inch'Allah, plein. Je l'ai consulté. Je n'ai pas terminé encore, mais quand même, j'ai trouvé. Il détaille les différents tafsirs, il détaille plein de choses. On en reviendra, Inch'Allah, ta'ala. Alors. Cette science qui n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, il y a des sciences du Coran, d'accord. Le Coran al-Karim, c'est le trésor, c'est le secret de toutes les sciences. On est bien d'accord. Toutes les sciences sortent du Coran. Si toutes les sciences sortent du Coran, on est bien d'accord que le Coran, c'est le secret de toutes les sciences. C'est vrai ou non? Vous remarquez que ça parle aussi, parce que les gens, ils vont dire, oui, mais bon, ça parle de sciences religieuses. Mais non, regarde les miracles scientifiques. Donc ça parle de l'expansion de l'univers, ça parle de l'atome, ça parle de l'oxygène, ça parle des... Moi, j'en ai des... Non, non, l'amwaj. Les vagues, les vagues. Les vagues, ça parle des vagues dans le fond des océans. Vous imaginez? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait où? Il vivait, c'était un marin. Il vivait où? Il vivait dans le désert. Il n'avait pas de mer. Il avait peut-être une fois quand il voyageait. Donc, ce n'est pas un connaisseur de la mer, entre guillemets. Mais comment un prophète qui vivait dans le désert, il va parler des vagues dans le fond des océans, que même la technologie moderne aujourd'hui n'a pas connu. Juste quand le commandant Cousteau, avec les moyens draconiens qu'il avait, il a profité, il a découvert deux choses importantes qui sont citées par le Coran Karim. On dit même que c'était les causes de sa conversion. Je ne suis pas sûr, hein, mais on dit qu'il s'est converti à cause de cela. La première chose, ce sont ces vagues au profond des océans qu'il a découvert. Et quand on lui a dit, mais écoutez, c'est Sétif Al-Qur'an al-Karim, il était sous le choc. Comment ça, c'est Sétif Al-Qur'an al-Karim, c'est pas possible. Le texte qui existe depuis 14 siècles, et on dit oui. Et la deuxième chose, Maraj al-Bahrayn yaltaqiyan baynahum barzakhun la ibriyan, dans Sourate Ar-Rahman, où il a découvert qu'à un moment donné, il a découvert une mer où il y a l'eau salée et l'eau douce, et elle ne se mélange pas. Ils ont dit, mais ça c'est cité au Coran al-Karim, que Allah parle qu'il y a une mer où on trouve l'eau salée et l'eau douce, elle ne se mélange pas, parce que Allah il a dit qu'il y a quelque chose qui les sépare sans que vous le voyez. Allah, il a appelé ça barzakh. Donc ça peut être quelque chose de magnétique, ça peut être, on ne sait pas, mais au Coran al-Karim on a parlé, ça l'a choqué, on dit que c'était la cause de sa conversion. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Donc, au Coran al-Karim, Il regorge d'immenses trésors qui sont interminables. Alors, comme je vous ai dit, les Sahaba, ils avaient une compréhension des versets. Ils avaient une compréhension des versets, et c'est le plus qu'il y avait le savoir. Allahumma, le professeur a fait dua à Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit, Allahumma, faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Oh Allah, donne-lui la connaissance, le fiqh. Le fiqh, c'est la compréhension. La définition du fiqh, c'est la compréhension. Un fiqh, faquha, fahima, il a compris. Faqihu fi din, dans la religion, wa allimhu ta'wil. Donne-lui l'interprétation, ta'wil. C'est le fiqh, on ne veut pas du ta'wil. Le prophète, il fait dua pour Sayyiduna Abdullah ibn Abbas pour le ta'wil. Les autres ils disent oui, c'est anti-aqida, le prophète il fait droit des choses anti-aqida. Donc une fois les sahaba ils étaient en groupe, et il y a le verset que vous connaissez parmi vous, hein, j'imagine, sourate An-Nasr, idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Donc dans ce verset là dans cette sourate, c'est-à-dire, ça parle des musulmans, le jour, ils rentreront en force à la Mecque, parce qu'ils vont ouvrir Mecca, etc. C'est-à-dire, gloire à ton Seigneur qui a fait ceci, cela. Donc, les sahaba, ils ont compris ça. Ils ont compris, parce que littéralement, c'est ce que ça se dit. Mais les sahaba, les grands sahaba, tels que Sayyiduna Abu Bakr al-Siddiq, tels que Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, tels que Sayyiduna Omar ibn al-Khattab, ils ont compris qu'il y a un message qu'Allah veut nous faire passer. C'est que le rôle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est terminé. Donc, c'est un message qui va rejoindre son Seigneur. Et Sayyidina Omar ibn Khattab, il a dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai compris? Sayyidina Abdullah ibn Abbas, il a dit, oui, j'ai compris la même chose. Bien qu'à l'époque, il était jeune. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, il était très jeune. Il a dit, j'osais pas dire parce que j'étais devant des gens âgés, des gens grands, des sahaba, qu'est-ce que j'ose dire? Mais il a dit, j'ai eu la même compréhension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas resté longtemps derrière. Après cette révélation, il a rejoint son Seigneur. Donc ce sont des gens qui voient des choses dans le Coran que d'autres personnes ne voient pas, mais c'est pas parce qu'ils vont faire la philosophie, c'est qu'Allah leur a donné de la lumière dans leur cœur. Ils ont de la lumière dans leur cœur, donc ça leur permet de comprendre les messages. Et les messages d'Allah, ils sont partout dans l'univers, mais surtout dans le Coran al-Karim. Donc, on a plein d'ouvrages. On a un ouvrage de l'imam Ibn al-Jawzi qui s'appelle Funun al-Afnan fi Uyun Ulum al-Quran. Ibn al-Jawzi qui est mort en 597 de l'Hijr. Ibn al-Jawzi dans le livre, très très beau livre, qui refute la croyance salafie, il est hanbalite. Alors on a celui de l'imam Zarkashi qui est mort en 794, à savoir Al-Burhan fi ulum al-Qur'an. Et on a l'ouvrage dont on parlait avec Sheikh, celui de l'imam As-Suyuti qui s'appelle Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, qui est, lui, il est mort en 911. Alors, parmi les ouvrages, on va dire, un peu contemporains, Manahil al-Irfan fi ulum al-Qur'an, de Abdel Azim Zarqani. On a Al-Madkhal ila dirasat al-Qur'an de Abu Shahba. Et on a Al-Bayan fi ulum al-Qur'an de Abdel Wahhab Ghazlan. On a un livre très important d'un savant contemporain, malheureusement libanais, qui a été tué. On ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il est mort, ça fait une vingtaine d'années. On ne sait pas qui l'a tué. Un grand spécialiste dans le hadith et le Coran. Ça s'appelle Mabahith fi ulum al-Qur'an. C'est-à-dire des recherches, des exposés. Docteur Subhi Salih, rahimahullah. On a un livre de Sheikh al-Bouti. Il s'appelle Min Rawa'i al-Qur'an. C'est-à-dire des très belles choses, hein, des innovations, des choses miraculeuses du Coran de Sheikh al-Bouti, rahimahullah. Et on a, comme je disais, ce livre-là de Sheikh Nourdine Aitr, Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Inch'Allah, la prochaine fois, on va rentrer un petit peu, commencer à étudier un petit peu ces sciences du Coran. On va commencer par parler un peu de la révélation. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Comment était la révélation? Et on avancera doucement, Inch'Allah ta'ala. On essaiera de détailler quelque chose qu'on n'a pas encore vu quand même, pour un petit peu refuter un peu la croyance salafie sur cette question-là du Coran, parce qu'ils sont mu'tazilites sur la question du Coran pour les salafis, Ibn Taymiyyah et ceux qui l'ont suivi. Ils disent qu'il y a des passages du Coran qui sont créés. Nous, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est un attribut d'Allah. Il est éternel. Hein? C'est la parole d'Allah. Tous les attributs d'Allah sont éternels. Ils n'ont ni début ni fin. Mais eux, ils disent, comme les Mu'tazilites, ils disent qu'il a un début. On va en parler de cela, Inch'Allah. Donc, je vais me limiter à cela, Inch'Allah. Ta'ala. On étudiera beaucoup de choses. Hein? Comment il a été révélé par verset, comment le prophète recevait des versets. Il ordonnait aux sahaba d'écrire ce verset-là dans telle sourate. Comment les sourates ont été classées d'une façon, on va dire, qui l'a classé? C'est le prophète, bien sûr. Pourquoi il les a classées ainsi? On parlera de cela, Inch'Allah. Très, 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 très intéressant. Des choses qui concernent le Coran Karim, quand même, on devrait les connaître. D'accord? S'il y a une question, sinon on va terminer parce que le couvre-feu, il va pas tarder à nous, quand même. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وتواضعا يا ارحم الراحمين. اللهم الشيخ سعيد من يحيى ربي بارك له في دينه وصحته وارزقه يا رب الشفاء العاجل بجاه رسول الله. الله ودوني ان شاء الله tout ce que vous souhaitez et beaucoup plus. جعلنا الله جعلكم مفاتيح لكل خير وما غالق لكل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. Thank you.